L'émission On en jase, c'est une émission d'actualité, c'est une émission où on jase des grands dossiers. Très belle entrevue avec Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin de Desmaures. Que vous aimez Sylvain Junot, 418-971-1021, moi j'aime bien sa vision très...
Faites attention, nid de poule hein, sur les trières en partant.
De l'actualité, honnêtement, et des projets.
Je vais vous prendre des photos, il dit, il y en a juste un.
Là, il y a de la chicane là, entre Sylvain Junot et Pascal Sévin à savoir sur les trières. Qu'est-ce qui se passe? Y en a-tu un, plusieurs, nid de poule? On verra. Bref, il y a une autre place où il y a de la chicane, Pascal Sévin, puis c'est dans le caucus du Parti conservateur du Canada.
Oui, oui.
Ça sort à grande porte, ça s'en va chez les libéraux. On nous dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Pierre Poilievre est en danger. Et pour en parler avec nous, on retrouve notre vulgarisateur d'actualité et chroniqueur politique, Lambert Drainville. Lambert, comment vas-tu, mon chum?
Ça va bien, vous autres, comment ça va?
Ça va super bien. Lambert, on commence, je te fais entendre Andrew Scheer et Gabriel Hardy, deux députés du Parti conservateur du Canada, concernant le caucus conservateur.
Unis derrière de M. Poilievre. Il a une vision claire pour les Canadiens, particulièrement les jeunes Canadiens qui ne peuvent pas acheter une maison, obtenir un emploi. Alors, on va continuer de parler des enjeux qui touchent la vie de tous les Canadiens.
On sort d'une élection il n'y a pas longtemps avec le plus haut vote depuis Brian Mulroney. On a une plateforme qui est solide. Alors, je pense qu'on est une belle solution pour les Canadiens.
Alors, à quel point les...
Oh, Lambert, je retiens de Andrew Scheer et Gabriel Hardy qu'on n'a jamais mentionné le nom de Pierre Poilievre. On a parlé de caucus uni, on a parlé de plus haut taux de vote depuis Brian Mulroney, mais on n'a jamais salué la performance ou le travail de Pierre Poilievre. Est-ce que j'analyse bien cet extrait?
C'est sûr que... fallait pas s'attendre à ce qu'on entende quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, depuis l'élection qu'il mentionne, que le caucus est uni derrière Pierre Poilievre, et ça n'a pas empêché quand même le 4 de leurs élus de traverser de l'autre bord de la Chambre. Moi, ma vision là-dessus, c'est que je me demande si, au final, c'est pas un mal pour un bien, Jeff et Pascal, cette majorité-là que Carney est allé chercher aux mains essentiellement des conservateurs. Et je m'explique, c'est que ce que ça offre à Pierre Poilievre, c'est probablement ce dont il a le plus besoin présentement, c'est-à-dire du temps.
Mm-hmm.
Il a besoin de temps, Pierre Poilievre. D'abord, s'il y avait une élection demain matin, là, si on regarde les chiffres, les conservateurs sont à 30 %, les libéraux à 45 %. Les libéraux à 45 %, là, au national, on n'a pas vu ça souvent au courant de l'histoire. Les conditions, disons, sont tout sauf idéales là, pour n'importe quel parti d'opposition à Ottawa, avec ce qui se passe avec Trump, avec ce qui se passe à l'international. L'effet Carney, là, il est encore très, très fort. On l'a vu avec le résultat des trois partiels et particulièrement le résultat dans Terrebonne, qui n'avait pas été libéral depuis 40 ans. Et pour gagner, comme Gabriel Hardy l'a dit, ils ont fait un super score, les conservateurs, aux élections, mais ça n'a quand même pas été assez. Pourquoi, Jeff, ça n'a pas été assez aux dernières élections pour les conservateurs?
Ben, plusieurs choses, je te dirais, entre autres au Québec, où on a voté énormément libéral, puis je te dirais où, et là je sais qu'il y a des auditeurs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais où la majorité des Québécois ne se retrouvent pas dans les valeurs identitaires des conservateurs.
Il y a certainement une partie de la réponse qui se situe là, mais moi, je m'enlignais beaucoup plus pour te parler de l'effondrement du NPD.
Oui, rappelle, en effet.
C'est la grosse variable de la façon dont le vote est concentré à travers le Canada avec avec quelques provinces seulement qui votent très, très conservateur et dans l'est du pays, notamment en Ontario, au Québec, c'est beaucoup plus difficile pour eux. S'ils veulent être en mesure de faire des résultats... disons, plus satisfaisant en Ontario et au Québec, particulièrement en Ontario et dans les provinces atlantiques, ils ont besoin d'un NPD fort. Alors, non seulement ce n'est pas le bon moment pour eux d'aller en élection parce que leurs chiffres ne sont pas là, mais ce 3 ans que Pierre Poilievre vient possiblement de se gagner là, bien, c'est 3 années qui doivent se croiser les doigts en maudit pour que le NPD et leur nouveau chef, Avi Lewis, puissent remonter dans les sondages. Évidemment, en espérant que ces gains-là se fassent au profit des libéraux, ce qui est généralement le cas, et que les libéraux baissent. Fait que je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je vois ça un peu comme, en anglais, ils disent « a blessing in disguise ». Si, évidemment, c'est conditionnel au fait qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop qui quittent dans les prochaines semaines, les prochains mois. S'il réussit à calmer, à contrôler la tempête et à rester bien dans le sel, on se rappelle qu'il y a quand même eu toute une table dans le dos au dernier congrès en janvier, là. Eh bien, c'est peut-être, comme je disais, un mal pour un bien, puis il va pouvoir avoir l'occasion de espérer que le NPD monte. Attendre aussi que la conjoncture change. Trump va partir éventuellement. Les guerres ne seront pas infinies au Moyen-Orient. Et bien sûr, lui, il doit se présenter aussi dans une lumière qui est plus première ministrable. Alors, ces trois années-là lui offrent aussi cette opportunité-là de dire, bon, ben là, clairement, ça va être trois années de gouvernance libérale. Assoyons-nous et bâtissons la meilleure stratégie pour que, à la fin de ces trois années-là, quand Trump sera parti, quand l'effet Carney, au même titre que l'effet Trudeau, tu te rappelles la Trudeau-mania?
Ben
2015,
oui.
Ça n'avait pas de bon sens. C'était les selfies. Il était au sommet de sa gloire. Il avait fait le Time Magazine des personnes les plus influentes au monde, comme Carney l'a fait d'ailleurs dans la plus récente édition. Ben, cette ballonne-là risque de se dégonfler par la nature cyclique qu'est la politique. Mm-hmm. Conditions seront peut-être plus gagnantes pour lui en 2029, mais il doit nécessairement s'accrocher d'ici là. Puis l'autre question, c'est si tu sais, l'alternative, c'est de dire bon, mais s'il y a d'autres élus qui partent, on le sort. Et la question qui vient ensuite, c'est on le remplace par qui? Et cette question-là non plus, elle n'est pas évidente.
En effet, entièrement raison. Hey, Justin Trudeau, je pense à ça, du Times Magazine au journal à Potin avec Katy Perry. C'est beau, hein? Lambert Drainville, chicane à l'intérieur du Parti libéral du Québec, la première depuis que Charles Milliard a été élu chef. Et on écoute pourquoi.
Je suis bien sûr un promoteur et un défenseur de la langue française. Ne laissez pas nos adversaires vous dire n'importe quoi là-dessus. Je suis un fier francophone. Mes parents ne parlent pas un mot d'anglais. Je vais protéger la langue française. Ce que j'ai mentionné, c'est qu'il y a deux éléments dans 96 avec lesquels je suis inconfortable. C'est la surcharge administrative que ça impose aux entreprises, alors que ça n'améliore pas la qualité du français. Et le fait que les immigrants doivent parler français en 6 mois. J'aimerais ça, mais c'est pas réaliste. Je suis juste honnête quand je dis ça. Alors, la loi 96, il y a des amendements que je voudrais faire, mais le reste, le fondement même, je suis en faveur et je vais remplacer ces éléments-là que je veux amender par des mesures fortes pour promouvoir la culture et les institutions culturelles.
Oh, un Charles Milliard à la tête du PLQ qui dit « Je suis pour la loi 96, la loi sur la langue officielle, le français ». Quand ouais. Il y a plus de députés dans son caucus présentement qui proviennent de comtés anglophones que de comtés francophones, est-ce que, c'est ma question, est-ce que c'est du courage politique ou il aurait dû parler à son caucus avant et c'est une erreur?
Je leur ai parlé dans la séquence, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. C'est venu sur la table avant qu'il y ait eu le temps d'en parler à son caucus, mais c'était dans ses plans d'en parler avant. Puis finalement, les médias ont posé les bonnes questions, puis le chat est sorti du sac. Écoute, Jeff, je trouve ça fou qu'on n'en ait pas encore parlé. Là. D'habitude, le vendredi, c'est le segment avec Farnell. Là.
Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Ouais. Allons-y. Tant qu'à parler du Parti libéral du Québec, t'as entièrement raison, Lambert.
Exact. Et quel était un de nos derniers sujets des débats Lambert et Farnell au courant des dernières semaines? Est-ce que ce ne serait pas justement l'utilisation de la clause dérogatoire et son usage de façon préventive? Je ne sais pas si tu te rappelles.
Bien sûr.
On en avait parlé. Oui. Farnell, sais-tu c'était quoi sa position là-dessus?
Farnell, sa position, c'était que les tribunaux vont faire le travail et qu'il faut faire confiance aux instances juridiques.
Exact. Et là, son nouveau chef vient de dire que pour ce qui est de la loi 96, à tout le moins, il allait renouveler la clause dérogatoire qui a été invoquée de façon préventive. Donc, ça ne va pas dans le sens de ce que Farnell semblait prêcher.
Est-ce que Farnell est déjà en chicane avec son nouveau chef aussi?
Non, je pense pas. Je pense que Farnell a dû avoir de très, très grosses discussions, le connaissant, avec Charles Milliard par rapport à la ligne de parti. Et je pense, il a d'ailleurs dit sur ses plateformes hier, Farnell, qu'il continuerait à publier des vidéos comme il le faisait. J'ai hâte de voir comment ça va se transposer au courant des prochains mois et de la campagne électorale, notamment, parce que ça peut toujours être un petit peu enquiquinant pour un chef de parti d'avoir... un membre de son caucus comme ça ou un candidat qui prend position sur tout et...
Oui, c'est ça, qui se donne liberté par rapport au parti, là, en effet. Mais pour revenir à la clause dérogatoire, dans le fond, c'est que Charles Milliard, il a dit « Je vais amender des choses dans la loi 96, mais je vais garder la clause dérogatoire. Il n'est pas question qu'Ottawa vienne challenger cette loi-là. » Et c'est ça qui crée la chicane au caucus, là.
Oui, puis ça, c'était écrit dans le ciel que ça allait arriver, Jeff. Moi, je te l'ai dit à plusieurs reprises, le plan de match de Charles Milliard, quand il a été choisi chef, pour moi, là, c'est-à-dire son chemin vers le pouvoir, c'était le plus évident de tous les chefs de parti. Si on se met dans le contexte où présentement, bien, tu as le Parti québécois qui est premier dans les intentions de vote depuis plusieurs années. Là, ça vient dans le dernier sondage juste de changer, dépassé par les libéraux. Mais bref, beaucoup de gens qui veulent possiblement pas d'un référendum, donc... bon, PQ est mis, n'est pas une option dans leur tête. La CAQ, beaucoup de gens en ont soupé, donc la CAQ n'est plus une option. Québec solidaire, période très difficile, je pense que pour plusieurs personnes, ce n'est pas une option. Je pense qu'Éric Duhaime ne s'est pas normalisé encore auprès de,
en effet.
De tout l'électorat. Et donc, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste le Parti libéral. Alors, quand je dis que leur plan de match est le plus évident, c'est que eux autres, mission reconquérir l'électorat francophone, c'est... l'élément qui fait en sorte que tu gagnes une élection au Québec. Et donc, quand il est entré en poste, je t'ai dit, il n'aura pas le choix s'il veut pas juste être compétitif, mais s'il veut gagner à la prochaine élection, d'aller plus loin sur des enjeux identitaires, le français, la laïcité, que les positions qui ont été prises dans les dernières années par le Parti libéral. Et clairement, il a compris le message parce que là, il va plus loin au niveau de la loi 96. Il a fermer la porte sur le renouvellement de la clause pour la loi 21. Donc, il semblait dire que lui...
Oui, au niveau des signes religieux, là, entre autres, qui a fait un pas de recul. Là.
Mais lorsque je m'étais assis avec lui, et j'essaie d'ailleurs, je fais aller quelques ficelles pour voir s'il n'y a pas un journaliste sur la tribune parlementaire qui le... questionnerait là-dessus, mais à moi, en entrevue, en entretien, il y a quelques semaines de cela, tu t'en rappelles, on avait fait passer des
écrits. Oui.
Il avait clairement ouvert la porte à dire, bien, il peut se passer bien des affaires d'ici à 2029. Et donc, je garde la porte ouverte à la renouveler aussi au niveau de la loi 21.
C'est ce qu'il a dit hier devant les journalistes de l'Assemblée nationale également. Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler. On se reparle mercredi. Puis, ben, on va souhaiter bonne chance à Farnell dans sa carrière politique. Tu seras pour le moment seul au monde le vendredi.
Ben ouais, j'étais un peu déçu. Moi, j'aimais bien ça, notre petit segment, les vendredis.
Mais
ça. C'est une belle dynamique.
Salut, Lambert Drainville.
Bonne chance. Ciao.
Yes, salut. Pascal, on parle énormément du commerce et de la guerre tarifaire depuis l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire depuis son assermentation en janvier 2025. Mais là, voilà qu'ici au Canada, ça semble être problématique, ce renouvellement de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, à l'effet que l'équipe Carney serait très opaque. Mm-hmm. Et l'équipe du Québec n'aurait pas beaucoup d'informations.
Ça se demandait, c'est-tu pour le Québec seulement ou chaque province vit
exactement
la même chose? Parce que c'était pas ce qu'on nous avait promis, bien au contraire. On voulait un grand travail de collaboration pour faire un Canada fort et fier.
C'est ça. Alors, après la pause, on va parler avec Julie White, PDG de manufacturier et exportateur du Québec, PDG au Québec. Donc, elle va nous parler de cette opacité. Puis, qu'est-ce qu'il y aurait besoin au Québec pour ces négociations-là? Mais avant d'aller à la pause, il y a de la circulation.
Juste un petit clin d'œil à ce qui se passe sur la capitale Est. On nous mentionne au 88-971-1021 qu'il y aurait du trafic. Je vois rien, Jeff, du côté du 511, mes cartes et tout ça. Mais ça serait très lent entre l'Ormière et l'Orancienne. Ben, faites attention, des fois, on se fait surprendre.
Oui, en effet. Donc, après la pause, Julie White qui s'en vient en studio avec nous.